présente On part ciné. Bien bonjour dans ce nouvel épisode de Comparciné avec un nouveau générique qu'on doit à Mathieu Massip et à Teddy Trarbach. Oui. En fait, c'est des copains qui ont dit ouais, ton générique est tout pourri, on va le faire au mieux. Je l'ai bien pris et je l'ai accepté. Donc, en tout cas, on les remercie. C'est eux qui ont un petit peu amélioré mon générique.
C'est qui le deuxième, t'as dit ?
Teddy Trarbach.
C'est qui celui-là ?
C'est un copain Mathieu. Okay. Voilà. Je ne l'ai jamais rencontré, mais en tout cas, je le remercie bien fort. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comparciné. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré.
Quand même, il se la pète, ce générique.
Ah ben, c'est la classe. Donc, on va aujourd'hui aborder un nouveau film, mais d'abord, je tiens à présenter ma petite Julie. Est-ce que tu vas bien, Julie ?
Oui.
Ah, ça fait toujours plaisir. Et comment tu vas depuis la dernière fois ? Tout s'est bien passé dans ta vie ? C'est génial, c'est la fête, hein ?
Ouais, ouais.
Bon, eh ben voilà.
Pas plus.
pas plus minus, quoi, comme la dernière fois. Donc, on va donc étudier un nouveau film aujourd'hui. Le concept de Comparciné, nous visionnons le film original et son remake et nous déterminons, après un long processus de recherche et d'exégèse cinématographique, lequel des deux est le meilleur. Donc, on va peut-être passer directement au courrier.
Oui.
Ça te va,
si tu veux le sac ?
Ah ben, d'abord, je mets le jingle et après, tu me fais D'accord. passer le sac ? Allez, on fait comme ça. C'est parti.
Séquence courrier.
Il fait toujours ce petit effet, ce jingle, c'est extraordinaire.
Ça se la pète autant que le jingle de l'émission.
Alors, s'il te plaît, fais-moi passer le sac. Allez. Donc, je vous rappelle que si vous allez au Jardin des Tuileries, vous pouvez laisser du courrier dans la poubelle des Jardins des Tuileries. Quelqu'un se chargera de le ramasser. Je prends.
Oh. C'est un sac en tissu tressé, bien évidemment.
Bien sûr. Tu sais combien on a reçu de lettres ce mois-ci ?
Alors, 567 ?
C'est ce chiffre que je dis d'habitude ? Non, 647 lettres, non, je dis d'habitude ?
Oh, j'écoute, je devais noter toutes les conneries que tu dis.
Pas de pis. Enfin, j'en tire une au hasard. Et le premier, ah, c'est une première, elle s'appelle Nadège Pinaille.
Bon. Pinaille, Nadège, Nadège Pinaille.
Je Pinaille. Je Nadège
Pinaille, ok.
Voilà. Alors, je lis sa lettre.
Ah oui, bonjour, c'est Nadège. Alors, je vous écris parce que vous avez commis une petite erreur quand vous avez parlé des nerfs à vif. Vous avez confondu deux compositeurs. Alors, vous avez confondu Leonard Bernstein, qui est effectivement a fait la musique de West Side Story, qui est très connu car c'est un grand chef d'orchestre, avec Elmer Bernstein, qui lui a fait la musique des nerfs à vif et qui effectivement était, excusez-moi, je ne trouvais pas un mot.
Pourtant, par écrit, c'est bête.
Oui, mais je marque tout et je vous réponds. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à votre interrogation car je la supputais déjà à l'avance. Donc, voilà, il était en quelque sorte un élève De Bernard Herrmann, et c'est lui qui a composé la musique, et il a d'ailleurs composé la musique aussi des Sept Mercenaires. Voilà, je tenais à rectifier car vous aviez fait une imprécision. Eh bien, écoute, on va remercier Nadège Pinaille, effectivement, je m'étais trompé. Alors, c'est le podcast, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, il me semblait que cette information-là était bonne, elle ne l'était pas. En même temps, ça ne me gêne pas beaucoup, parce que donc, si vous avez des remarques, on fait des erreurs, tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part sur Facebook, ou sinon en laissant un courrier au Jardin des Tuileries. Mais on essaie. Moi, j'aime bien le fait que voilà, des anecdotes, même si on se trompe, ça participe à mettre le cinéma en avant et à créer des mythologies, ça ne me gêne pas. Voilà, y a plein de choses qu'on croyait vrai sur le cinéma, par exemple le requin des dents de la mer qui fonctionnait pas, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était un peu pour noyer le poisson parce que Spielberg était un peu en difficulté sur le film. Voilà, moi ça me gêne pas qu'on se trompe un peu et tout ça. Voilà, si vous êtes là pour rectifier, si vous avez des informations, on est toujours ouvert. J'attrape une deuxième lettre. Ah, c'est un jeune auditeur qui nous écrit, qui s'appelle Kevin et qui a apparemment 17 ans. Oui, effectivement, 17 ans. Et il nous explique que Oui, salut, c'est Kevin. Alors, je tenais à parler de votre dernier podcast sur la féline. Voilà, vous disiez que c'était le genre de film qui intéressait pas les jeunes. En tout cas, c'est ce que Julie a laissé supposer. Et je tiens à vous dire que pas du tout. Moi, j'adore la féline. Je trouve ça trop tip-top. Ouais, c'est de la balle. C'est un truc de ouf. Donc, voilà, n'hésitez pas à parler de vieux films parce que nous, les jeunes, eh ben, on adore ça, les films. Voilà. À plus. Minus. Tchuss.
Tu vois, tu t'es vendu toi-même. Tu as dit A plus minus. On sait donc que c'est toi qui as écrit cette fausse lettre.
Pas du tout. C'est un fan. Les fans, ils reprennent les.
Mais bien sûr.
Tout ce qu'on dit et tout ça, pour eux, c'est de.
C'est pas
de
joli, joli ce que tu fais, des faux témoignages.
Mais pas du tout. Donc voilà, on va s'arrêter là parce qu'on va essayer de faire court pour ce podcast. Hein, parce que, après tout, les gens, ils aiment bien quand c'est court aussi.
Quelle durée on vise ?
On va tenter de viser 35-42 minutes. Ça va être dur, mais on va s'y mettre. Après, okay. Je ferai du montage, je couperai toutes tes interventions. Tu sais très bien comment ça se passe. Voilà, donc on va tout de suite passer à comparsiné proprement dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de deux films. Le premier, c'est Le Sixième Sens, alors aussi appelé Manhunter, de Michael Mann.
À pas confondre avec le film sur le petit garçon qui a des visions.
Voilà, tout à fait. C'est pas du tout ça. Ça a été vraiment. C'est le titre français du film. Mais aux États-Unis, c'était Manhunter qui est adapté en fait d'une nouvelle de. Oh là, j'ai oublié le nom de l'écrivain. C'est de Thomas Harris, Dragon Rouge. Alors en fait, ils n'ont pas appelé le film comme ça parce qu'ils avaient peur. Il y avait un film qui était sorti juste avant, qui était L'année du dragon, qui n'avait pas du tout marché. Et surtout, ils ne voulaient pas que ça fasse style film de Bruce Lee, quoi. Avec dragon dedans, les gens à l'époque. Ouais, je te jure que c'est vrai. Ils avaient peur.
Quel rapport entre dragon et Bruce Lee ?
Ben parce que la fureur du dragon, le petit dragon met des coups de tatane. Il y avait
dans les c'est une blague, le truc.
Non,
de la
je tatane. Te jure que c'est vrai. Non, oui, non, il n'existe pas un film qui s'appelle Le dragon met coups de tatane. Mais ils avaient vraiment peur que ça fasse trop film de karaté, quoi, si tu veux. Parce qu'il y avait tout un tas de films avec dragon dedans qui parlent de karaté. Donc, voilà, ils ont évité ce nom-là. Et donc, ils ont appelé le film Manhunt, qui est chasseur d'hommes, on va dire. Et donc, c'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Et en France, il s'est appelé Sixième Sens, bien avant le film avec Bruce Willis et le petit garçon. Et ce film date de 1986, que nous allons opposer à son remake, qui s'appelle, lui, Dragon Rouge, parce que la mode des films de karaté étant terminée, ils ont pu l'appeler Dragon Rouge, comme le livre dont est tiré le scénario du film, et qui est sorti en 2002, et qui est de Brett Ratner. Alors, Brett Ratner, c'est le gars qui a fait Rush Hour, enfin, il a fait tout un tas de films un petit peu comme ça, et il s'est retrouvé aux commandes de ce film-là. Pourquoi le remake a été entrepris ? Eh bien, tout simplement grâce au succès du film Le Silence des Agneaux, parce qu'en fait, donc, Dragon Rouge est la préquelle du Silence des Agneaux, qui est arrivé après. Mais devant le succès du film Le Silence des Agneaux, ils se sont dit le Sixième Sens, Manhunt, n'a pas très bien marché, mais maintenant qu'on a un bon casting et qu'on a vu que ce film marchait là, on va faire un remake avec Hannibal Lecter, qui cette fois va être joué par Anthony Hopkins, vu qu'il avait eu un grand succès.
Oui, c'est... mais alors est-ce que dans le premier film de 1986, le méchant s'appelait déjà Hannibal Lecter ?
Oui, sauf que dans le film, il l'appelle Lecter. Voilà. Alors, je sais pas si c'est du doublage ou quoi, mais il s'appelait Lecter, mais c'est le même personnage parce que de toute façon les deux films sont tirés du même roman qui s'appelle Dragon Rouge. Voilà, donc ils ont fait ça.
Mais alors est-ce que le film Le Silence des Agneaux était lui-même tiré d'un roman?
Oui, il y a aussi, oui. Il y a même une suite, hein. Il y a une, je crois que parce qu'il y a une suite aussi au Silence des Agneaux qui s'appelle Hannibal. On voyait toujours Clarice Starling, mais jouée cette fois par une autre actrice, qui est Roussa, j'ai oublié le nom, qui a remplacé Jodie Foster. Alors je ne sais pas si ça faisait partie, il me semble que c'est une trilogie quand même de romans, donc je pense que Hannibal est aussi tiré du livre, mais je ne suis pas tout à fait sûr.
Si je peux me permettre, il n'y a que 16 ans d'écart entre les deux films. Première analyse.
Analyse en profondeur, bien sûr.
Est-ce que tu peux nous dire de quelle année date Le Silence des Agneaux ?
Avant 2002, mais non, je ne l'ai pas noté. Tu veux absolument la date, c'est ça ?
Je pense que ça éclairerait... Alors, oui. le film de Silence des Agneaux datant de 1991. Ils ont quand même attendu un bon moment avant de tourner la suite, Le Dragon Rouge, en 2002. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils surfent sur la vague du succès de Silence des Agneaux ?
Ben oui, parce que le film avait bien marché. Ils ont tenté d'adapter le film. Alors, vu qu'ils avaient déjà sorti, parce que je pense qu'entre-temps, avant, est sorti Hannibal, c'est-à-dire Le Silence des Agneaux, Hannibal, et ensuite, ils ont fait le préquel Dragon Rouge.
D'accord.
Tu vois. Donc,
je déteste ce mot préquel. Et d'ailleurs, quelle idée saugrenue et idiote de tourner le début avant de tourner la fin.
Bon, ton avis sur les mots, bon, certes, pourquoi pas. Écoute, je demanderai à monsieur le petit Larousse de la lever.
C'est pas mon français, préquel. Préquel. Pourquoi pas les prémices hein, ou,
C'est pas toi qui voulais rentrer dans le vif du sujet. Si tu veux, on peut faire une interrogation linguistique, hein, remonter au latin et tout ça. Mais bon, je sais pas si ça va vraiment passionner.
La genèse.
Ouais.
La genèse. Ça, c'est mieux.
D'accord.
Les prémices.
Ok, donc on continue là-dessus.
Allons-y. Vas-y,
enchaîne, enchaîne. Ah, bon. Donc, alors, le
quand même, on me fera pas taire.
Le film Le Sixième Sens de Michael Mann s'ouvre donc sur le premier meurtre, en quelque sorte. On ne le voit pas vraiment, hein, mais sur des images du premier meurtre. Hein. Tandis que Dragon Rouge, lui, il s'ouvre sur l'arrestation en fait, d'Hannibal Lecter. Voilà, parce que dans Dragon Rouge, vu que c'est en quelque sorte Anthony Hopkins qu'il faut absolument placer au centre, parce que c'est lui la star, hein, un petit peu du film, donc il va y avoir tout un tas de scènes qui ne sont pas dans Le Sixième Sens, et bien là, elles vont y être pour mettre en avant Anthony Hopkins, qui, à mon avis, des scènes qui sont totalement superflues, parce que Anthony Hopkins, il tente de, vu que ça se passe avant, il tente de le rajeunir par des effets de maquillage et tout ça, et franchement, moi, je le trouvais beaucoup moins convaincant que dans Le Silence des Agneaux. Mais donc, on voit l'arrestation d'Hannibal Lecter et on voit qu'il blesse gravement Will Graham, qui est le héros du film et qui va tenter d'arrêter un tueur en série qui s'appelle Dragon Rouge, qui tue des familles. Quoi.
Will Graham, qu'on peut également surnommer Casque d'Or.
Oui, parce qu'effectivement, dans le film de Dragon Rouge, Edward Norton a les cheveux teints en blond. Un peu style surfeur, et c'est vraiment, on peut dire, ça
c'est abominable.
Ouais, ça y va pas du tout.
Chemin, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, et je comprends pas comment il a pu accepter d'avoir une coupe aussi ridicule.
Ouais, c'est vrai que ça met un peu, on peut dire que ça met tout le film en l'air, mais enfin, pour son personnage, c'est difficile. Quoi,
et tant qu'on en est à ce genre de considération capillaire, le même personnage, mais de l'autre film, a également une coupe de cheveux ridicule pleine de frisottis. À la limite, on peut pas lui en vouloir, parce que je pense que c'est ses vrais cheveux. Mais le gamin aussi, Casque d'Or. Ouais. Alors que c'est un gamin de 10-12 ans, donc je pense que là aussi...
Ouais, mais pas... sa mère, elle est blonde.
Ouais, mais bon, c'est exagéré. Est-ce que c'était la mode du blond, en fait, dans les années 80?
Mais écoute, je vois qu'on est bien parti sur des détails. On ne va pas me finir. Je te rappelle que je voulais faire... On est à 12 minutes, mais on peut... c'est à moi d'accélérer un peu. Qu'est-ce que tu as pensé à la coupe de cheveux d'Anthony Hopkins? Parce qu'il met du gel ou de la graisse dedans.
Écoute, justement, je pense que ça participe beaucoup du charisme de son personnage.
Ah.
Du fait qu'il fasse peur, en fait.
Le cheveu plaqué comme
oui,
ça sur son...
Oui, tout à fait.
D'accord.
S'il avait les cheveux ébouriffés, ça ne ferait pas le même effet.
Eh bien, donc, on attend des témoignages de coiffeuses qui ont certainement un avis. On pourrait faire ça,
un
podcast, mais vu du niveau capillaire, pour voir...
Tu es coiffeuse, tu as déjà coiffé des serial killers, dis-nous, quelle est la coupe préférée des serial killers?
Tu travailles dans le cinéma, et ça a peut-être une sorte d'importance. Donc, alors, on va s'intéresser le déroulé du film, pour le résumer. Will Graham, qui a mené une enquête avant sur Hannibal Lecter, a été apparemment blessé dans le Sixième Sens. On n'en sait pas plus, mais on sent qu'il s'est passé vraiment quelque chose de très grave. Et dans Dragon Rouge, c'est bien décrit, on voit la scène, on voit tout ce qui s'est passé. Donc, il doit enquêter, alors qu'il était plus ou moins en retraite, il doit enquêter sur un nouveau meurtre, sur une personne, sur un tueur en série qui tue des familles, principalement les femmes, mais enfin, il tue aussi les enfants, etc., etc. Et donc, il va tenter d'arrêter ce tueur en utilisant l'aide que peut lui apporter Hannibal Lecter. Et on va découvrir qu'en fait, le tueur en série veut ressembler à un dragon, en quelque sorte. Il se base en fait sur une peinture d'un auteur, là j'ai oublié le nom malheureusement, mais une peinture assez connue. Et il pense être ce dragon-là, et il veut le devenir. Quoi. Et il pense qu'en tuant les familles, il va pouvoir se transformer en ce dragon.
Alors dans le deuxième film, il a un gros dragon tatoué dans le dos jusqu'aux fesses, même jusqu'aux cuisses. On le voit d'ailleurs nu de dos. Mais est-ce que dans le film ancien, il y a ça? Non.
Si, il y a une peinture.
Oui, mais il n'a pas un tatouage.
Non, il n'a pas de tatouage. Voilà. Mais le physique est beaucoup plus inquiétant du premier film. Il est un peu bizarre, quoi, cet acteur.
Oui, oui. Mais je pense que dans le deuxième film, ils ont vachement joué là-dessus, puisque c'est également l'affiche du film, de voir les épaules du méchant tatoué.
Oui, tout à fait. Alors là, je tente de retrouver
Le nom du tatoueur
Non, le nom du tueur en série du premier, parce qu'il a vraiment un physique bien particulier.
Il est très grand.
Ouais. Alors,
bon, il est chauve.
Oui. Attends, je mets le pot. Voilà, en fait, le tueur en série est joué par Tom Newman, qui a un physique vraiment particulier. Il est très grand, avec la peau blanche. Enfin, déjà, lui, il est juste inquiétant de par son apparence physique.
Moi, je trouve pas. Je trouve que d'ailleurs, dans l'ensemble des deux films, le casting est mauvais. Tous les acteurs, ils sont bidons, je trouve. Absolument tous.
T'as les deux films ?
Ouais, à part bien évidemment Anthony Hopkins. Après, tous les autres, vraiment, je les trouve tous nuls. Pas de charisme. Les méchants, ils font pas peur.
Je suis pas du tout d'accord avec toi.
À part l'aveugle, à la limite, mais après, tous les autres...
Ben, moi déjà, William Petersen, celui qui joue donc le rôle de Will Graham dans l'ancienne version, j'adore cet acteur. Pourtant, il a fait que deux films et voilà, je trouve qu'il a, voilà, il a quelque chose.
Un mini short ?
Non, mais vraiment, sa présence, parce qu'aussi, il a joué dans un film de William Friedkin que j'adore, qui s'appelle Police fédérale Los Angeles. Après, il n'a pas fait beaucoup de rôles parce qu'il s'est consacré au théâtre, et il est revenu que pour Les Experts, où il a eu vraiment un très très gros succès. Après, il a pris le rôle du chef, en quelque sorte, des Experts. Mais voilà, cet acteur-là, je trouve vraiment charismatique, quoi. Je trouve,
Vraiment pas du tout.
Bon, au niveau des scènes entre les deux films, il faut savoir que le scénario est pratiquement identique, sauf la fin pour Dragon Rouge, qui a une sorte d'épilogue, de renversement de situation, où en fait la famille de Graham est attaquée par Dragon Rouge, chose qu'on ne retrouve pas dans l'ancienne version, et plus les séquences beaucoup plus nombreuses avec Anthony Hopkins, qui est vraiment placé là. Voilà, moi, je le trouve. Je trouve pas qu'elle serve vraiment l'histoire. Quoi, ça, hein. Le film n'est pas bien plus long, mais. Je sais pas, il y a l'atmosphère.
Disons que ce film-là joue beaucoup plus sur les visuels, avec, comme je l'ai dit, le tatouage et aussi la tronche d'Anthony Hopkins avec son masque anti-morsure. Voilà, la combi, il a la camisole de force, il a les chaînes, donc c'est beaucoup de visuels en fait sur ce personnage-là.
Oui, c'est sûr. Hein. Non, mais oui, tout est basé sur Anthony Hopkins.
Donc ça, c'est un peu des gadgets en fait.
Oui, il tente de surfer sur le Silence des Agneaux.
Oui,
sur le, parce que le masque, ça te fait penser au Silence des Agneaux. Et d'ailleurs, le film finit, Dragon Rouge finit sur. On apprend qu'il y a quelqu'un qui veut voir Anthony Hopkins. Cette personne-là, c'est Clarice Starling. Donc, Dragon Rouge finit là où le Silence des Agneaux commence. Quoi. Mais, par exemple, dans le sixième sens, il y a deux scènes vraiment marquantes. C'est quand le tueur en série, en fait, tombe amoureux d'une femme aveugle. Et il l'amène en fait chez un vétérinaire et il lui fait caresser un tigre. Cette séquence-là, je l'ai trouvée vachement forte, quoi, si tu veux, dans l'ancienne version. Parce que tu t'attends pas à ce qu'il fasse ça, à ce qu'il, voilà, qu'il comprenne, alors que tu penses que c'est une bête cruelle, si tu veux, un tueur en série. Là, il fait preuve d'une émotivité, d'une compréhension de l'autre qui est quand même un peu...
Oui, tout à fait. Voilà. Mais dans le deuxième, c'est pareil, puisqu'on comprend qu'il est plus ou moins amoureux de la fille, puisqu'il songe à se suicider.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il est conscient quelque part de sa folie et qu'il ne veut pas faire de mal à cette femme, donc il envisage de se suicider, même si au final, il ne le fait pas.
Oui, mais je trouve ça trop explicatif dans Dragon Rouge, parce que tu comprends que s'il est devenu un tueur en série, c'est plus ou moins à cause de sa mère, si tu veux. Mmh. On revient là-dessus, on apprend qu'il a fait partie des forces spéciales dans l'armée, quoi, si tu veux, pour te dire, ouais, non, il va pas se laisser faire et tout ça. Tandis que l'autre est plus énigmatique, quoi. Tu vois, l'autre, tu sens que son physique l'a dérangé, parce que dans Dragon Rouge, c'est quand même Ralph Fiennes qui joue le rôle, et c'est un beau garçon, quoi. Il a eu un petit bec.
Ah, j'avais pas compris que c'était Ralph Fiennes.
Eh ben si. Il a juste un petit bec de lièvre. Mais
maintenant
après,
que tu le dis, c'est vrai, j'ai pas du tout pensé. Ça veut dire que finalement, il intégrait bien son personnage.
Ah ben oui.
Tout à fait. Ben, d'ailleurs, on le reconnaissait pas trop. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, à cause de sa coupe de cheveux, premièrement, et effectivement de sa fente labiale. Tout à fait.
Mais on l'a beaucoup critiqué pour ce rôle-là. Quoi, si tu veux. Il y en a qui disent, je sais pas s'il a pas eu un Razzie Award ou un truc comme ça. D'accord. Alors que moi, je trouve qu'il est... convaincant, quoi. Le seul truc, c'est qu'on lui met un passé.
Écoute, je
à
suis
la
en train
noix.
De changer d'avis effectivement sur ce personnage.
Voilà.
Par contre, tu parles de la scène du tigre, elle y était également dans, la deuxième,
oui.
dans le deuxième film.
Oui.
Mais est-ce que tu as vu que dans une des deux séquences, la femme caresse le zizi du tigre ?
Oui.
Mais pourquoi ?
Je sais, parce qu'ils veulent être un peu plus choquants. Il y a plus, je pense, ça, quoi. Même sur les scènes de crime, il y a beaucoup plus de sang barbouillé de partout sur les murs d'un Dragon Rouge.
Oui, mais le truc du tigre, c'est quand même space, quand même, ne me dis pas.
Oui, mais je te dis, je pense qu'ils ont voulu être plus choquants. Voilà, vu que c'est les années 2000. Mais il n'y a pas besoin, quoi, parce que justement, c'est un moment d'émotion, de ressenti, de sentir juste le souffle du tigre, quoi, si tu veux. Et moi, je trouve qu'ils vont trop loin. Non, c'est un tigre. Okay. Toi, tu as vraiment un problème avec les animaux, parce qu'avec la féline, déjà, c'était... Non, non, c'est un tigre. Et elle lui caresse les dents et tout ça, je trouve ça mieux qu'elle passe sa main sur les dents dans le sixième sens, qu'elle touche le pénis du tigre d'un dragon rouge, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris cette allusion-là, j'ai trouvé ça vraiment dommage, quoi.
Alors... Non, mais je pense que ce personnage-là, on pourrait en dire beaucoup aussi, parce que voilà, c'est un personnage qui est aveugle et qui est vachement branché sur le cul, en fait.
Oui. Et c'est tout.
C'est tout ce que j'ai dit.
Bon, oui, fait que ben oui, qu'est-ce que tu veux, vas-y, développe, parce que tu sors un truc et tu vas pas plus loin dans le monde.
Non, mais c'est étrange, mais je pense que c'est aussi représentatif, j'allais dire, de tout le cinéma des années 80 où il fallait que ce soit tout branché là-dessus, en fait. Mais ce film-là date de 2002, donc ça démolit ce que je suis en train de dire.
Voilà, donc je sauterai tout ce passage. Voilà, si tu veux bien,
d'accord. Tu peux me couper, je t'autorise.
Tu me dis d'aller vite, de faire des trucs.
Voilà, une chaîne, hein. Enfin... Qu'est-ce que tu glandes là?
Ah, purée, je vais avoir des sacrés montages à faire, moi. Donc, bon, si on prend donc cette scène, elle est assez charismatique, la scène du tigre. Pas charismatique d'ailleurs, on va dire autre chose. Elle est importante.
Elle est chouette.
Quoi. Elle est chouette. C'est une chouette scène avec le tigre. Autre scène qu'ils n'ont pas pu enlever, c'est la séquence où en fait un journaliste qui est vraiment antipathique au possible. Et là, les deux acteurs s'en sortent très bien. Alors, je ne vais pas vous dire les noms. Il y a un acteur qui est...
Si, il est connu, celui de 2002. Là.
Oui, 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 il est connu parce qu'on l'a déjà vu dans un autre film.
Dans un film où il avait une queue de cochon.
Oh putain. C'est pas lui.
Ah non, l'amour extra large. Tu devrais t'excuser fraîchement auprès de nos auditeurs. On vient de se friter, ça n'avait pas enregistré, alors que nos auditeurs nous écoutent pour ça.
Gros glam. Je vais mourir. C'est pas possible.
Pauvre bon. Kong.
C'est bon, c'est peut-être pas la peine de m'insulter non plus. Hein. Je sais pas si le public il aime bien ça. Donc c'est Philippe Seymour Hoffman. Non, il n'a pas joué dans l'amour extra large. On en a déjà parlé, je sais plus à quelle occasion, mais Philippe Seymour Hoffman, il a joué dans tout un tas de films. Le dernier en date, c'est dans Twister, il jouait. C'est Philippe Seymour Hoffman. C'est le gars qui est un peu débile dans Twister.
Oui, je vois très bien.
Voilà, donc c'est lui.
Très bien.
Alors que c'est considéré comme un grand acteur, il n'a pas fait que des grands films.
Parfait.
Voilà. Tandis que dans l'autre film, alors je vais pas chercher le nom pendant une heure, mais c'est quelqu'un d'autre. Hein.
Super.
Mais c'est pas possible. Dis-le mauvais, ils font pareil. Je vais mourir. Enfin bref, donc il y a la séquence, je veux revenir sur ce qui était central,
du courrier.
Non, du journaliste qui dévale une pente attachée sur un fauteuil roulant qui est en flamme. Quoi.
Oui.
Voilà. C'est quand même ce qui était. Moi, ça m'avait vachement marqué quand j'avais vu la première fois le film à l'époque. Et d'ailleurs, dans les bandes d'annonces, il y était. Là, ils le refont avec une petite particularité, c'est-à-dire que là, le journaliste d'Adrango Rouge, il est collé à la glu sur le fauteuil roulant. J'ai trouvé ça sympa comme idée. Et c'est pas dans un parking, c'est dans une rue, mais la séquence est tout aussi marquante. Quoi. Vraiment, là, c'est... Voilà, on est avec le personnage.
Disons que ça donne pas envie de se faire coller à la glu sur un fauteuil.
Exactement. Oui. Mais même sans voir vraiment l'image, de toute façon, j'aurais pas eu envie non plus. C'est autre chose. Donc, si on voulait résumer, au niveau du scénario, les deux scénarios sont... pratiquement identique, avec Dragon Rouge qui est un petit peu plus long et insiste sur la présence d'Anthony Hopkins. Au niveau du casting, moi je pense que je donnerai un peu une longueur d'avance sur le sixième sens. Et par exemple, entre Edward Norton et William Peterson, lequel est ton préféré, si tu devais choisir?
Disons que Edward Norton, la casque d'or, il a toujours un sourire niais sur le visage.
Alors, moi, ce qui m'a plu, la différence que je vois entre les deux films, c'est que dans le premier, et d'ailleurs c'est un peu sa faiblesse, c'est que William Peterson, on te dit qu'il arrive à s'insinuer dans l'esprit des tueurs en série, que presque il devient lui aussi un tueur en série. Quoi. Il les approche tellement, il arrive tellement à les comprendre que tu as l'impression qu'il peut devenir fou. Mais ça ne va pas assez loin, si tu veux, pour qu'on ait vraiment cette idée-là en tête. Tandis que dans le cas de Dragon Rouge, Edward Norton... là où son personnage est intéressant, et là aussi c'est pas assez développé, c'est qu'en fait il a peur. Voilà. C'est quand il va voir Hannibal Lecter et tout ça. Il est censé, d'ailleurs, à un moment, il enlève sa veste, on voit qu'il a transpiré, il a des auréoles sous les bras et tout ça. Et d'ailleurs, Hannibal Lecter lui dit il a peur, mais vu que c'est un brillant détective et qu'il veut arrêter à tout prix les coupables, il va au-delà de sa peur et il arrive à enquêter et à piéger ce qu'il faut. Et je trouvais ça sympa comme idée, cette différence un peu au niveau des personnages. C'est un bon enquêteur aussi, Edward Norton, mais principalement, la base, son défaut, c'est qu'il a peur. Et je trouve que ce n'est pas assez ressenti. On aurait vraiment dû voir un personnage qui même échoue à cause de sa peur, un peu d'ailleurs comme dans Vertigo. Il échoue à faire une arrestation parce qu'il a peur. Tandis que là, on ne le voit pas. C'est suggéré. Et je trouvais que l'idée était vachement sympa, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Et dans le cas de William... Aidez-moi, Seigneur. Dans le cas de William Petersen...
J'ai décidé d'intervenir quand tu faisais des longs
tunnels. Voilà, le fait qu'il s'insinue dans les esprits qui deviennent fous, lui aussi, je trouvais ça vachement intéressant, mais... ça va pas assez loin, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas le moment de bascule où on se dit que le personnage presque il pourrait assassiner sa famille. C'est un petit peu suggéré, mais pas suffisamment à mon goût. Après, pour le cas de d'Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, moi, il me convainc pas tout à fait. Je préfère vraiment l'ancienne version de Brian Cox, voilà, qui est un acteur que j'aime bien. Et oui, ben, moi, par exemple, il a joué dans... si je ne dis pas de bêtises, dans On Revoira Jamais, qui est un film d'action et tout ça. Et je ne sais pas, cet acteur-là, il a fait que des seconds rôles, mais je le trouve vraiment, vraiment chouette. Et je trouve qu'il interprète le rôle d'Hannibal Lecter vraiment de façon voilà, assez inquiétante, juste par son physique, sa façon de faire. Chose que je ne retrouve pas chez Anthony Hopkins. Et pour le tueur, alors je trouve que Ralph Fiennes, il ne démérite pas. Voilà, je le trouve inquiétant. Par contre, le problème d'une trop longue explication de pourquoi il est devenu comme ça, ça me fait quand même préférer la prestation de Tom Noonan, qui est un physique, lui on va dire que c'est beaucoup plus facile parce qu'il a vraiment un physique dérangeant, quoi. Enfin en tout cas surprenant.
Bon, passons à la conclusion.
Moi, j'ai il y a un générique avant.
Il ne peut qu'en rester qu'un. Mais lequel?
T'as un accent chinois dans ce générique. En plus, tu dis il ne peut qu'en rester que. Ça
si
va
tu
pas.
Me l'as déjà dit la fois précédente.
Mais re-enregistre-le.
Je trouve ça rigolo, moi. Rien me fera taire, moi non plus.
Bon, donc, moi j'ai beaucoup préféré.
Hop, je t'ai demandé ton avis. C'est qui le chef? Est-ce que c'est le podcast à Juju, ça ou quoi?
Non. Bon.
Allez, vas-y, dis-moi ton avis.
Donc, j'ai largement préféré le film de 2002. Dragon Rouge au premier, parce que il est plus rythmé. Je me suis bon, j'en veux dire que j'ai bien aimé, allez, même si c'était pas un chef-d'œuvre. Par contre, le premier, il y avait vraiment beaucoup de longueur et dans l'ensemble, je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça long. J'avais hâte que ça se termine et d'aller me coucher.
Ah bah tu vas pas me le cuir. Alors moi, entre les deux, je dirais que le sixième sens, effectivement, vu qu'il a un peu vieilli, a des longueurs. Moi à l'époque, ce que j'avais bien aimé, c'était la manière de filmer, y a plein de filtres bleus, la mer et tout ça. Enfin, je trouvais vraiment l'image intéressante.
C'est pas qu'il y a des filtres bleus, c'est qu'ils sont à la mer, un point.
Non, un moment de nuit, c'est filtré avec du bleu. Et si tu pouvais me parler un petit peu plus gentiment, ça m'arracherait vraiment, merci.
Okay.
Voilà. Donc il y a des filtres bleus, un moment, une scène de nuit, tout est bleuté. Et Michael Mann, il a une façon de filmer qui est intéressante. Maintenant, il y a vraiment des longueurs et des scènes dont on aurait pu un petit peu se passer. Et Dragon Rouge, moi je trouve qu'il y avait des bonnes idées qui n'ont pas été assez développées. C'est un film qui se laisse regarder. Si vous devez en regarder un dimanche soir, je vous conseille de regarder Dragon Rouge, vous ennuierez un petit peu moins. Maintenant, si vous voulez voir un peu au niveau de l'histoire du cinéma, voir comment Michael Mann a pu évoluer, parce que c'est quand même un sacré réalisateur, je vous conseille de regarder ce film. Après, il y en a qui pensent que Michael Mann est un dieu sur Terre. Alors, il avait même fait un film que j'ai vu qui s'appelle La Forteresse Noire. Il y a plein de gens qui sont dit tyrambiques sur ce film. Moi, je l'ai vu, franchement. C'est très très long, vraiment, il faut vraiment se le gaufrer. Donc moi je parle juste en termes de vous avez envie de regarder un bon film un soir, vous êtes en famille avec les enfants, ils seront contents de voir des chiens se faire arracher le visage, etc. Voilà, en termes de cinéma de dimanche soir, il vaut mieux regarder Dragon Rouge. Après, le sixième sens est beaucoup plus intéressant. Et même à la limite, vous pouvez faire comme nous et regarder les deux si vous avez envie de rentrer un peu plus en profondeur dans des films. Entre les deux, mon préféré, moi je vote quand même pour Le Sixième Sens parce que j'ai été extrêmement déçu par la performance d'Edward Norton, que j'adore d'habitude, depuis Fight Club, de toute façon, c'est un film qui m'a vachement marqué. Après, il n'a pas fait grand-chose, Edward Norton, de vraiment chouette. Donc c'est surtout parce que Dragon Rouge m'a déçu que je dis que je préfère Le Sixième Sens. Voilà. Tu n'as pas un mot à rajouter, Julie ?
Je dis que tu es un sacré...
Attention à ce que tu veux dire. Attention.
Un sacré analyseur de films. Ah. Que tes analyses sont toujours pertinentes et pas piquées des verres.
Oh ouais.
Voilà. Mais que quand même, tu as quand même un sacré esprit de contradiction.
Oh oui.
Il suffit que je dise que je préfère Dragon Rouge pour que tu dises que tu préfères l'autre. Alors que Jérôme, même si ça fait certes un petit moment qu'on a regardé ces deux films et que tu ne t'en souviens peut-être pas très bien, je t'assure que l'autre t'as dû ronfler pendant tout le film sans vouloir te balancer.
Est-ce que je dorme à un film, ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque du film, d'accord?
C'est juste que tu as sommeil.
Exactement. D'accord. Après une longue journée. Non mais c'est bien sûr, c'est la nostalgie qui parle avant tout. Moi, ce film-là, déjà quand tu l'as vu en premier par rapport à un autre, tu as toujours tendance à te dire c'est lui qui a inventé le scénario, le machin, le bidule, le truc. C'est pas Michael Mann qui a tout fait sur ce film-là. Il y a un côté nostalgique. Mais moi, quand je l'ai découvert, je sais qu'à l'époque, je m'étais dit wow, je viens de voir un grand film. Aujourd'hui, avec le recul, avec le temps qui a passé, avec le cinéma d'aujourd'hui qui est plus rapide, plus dans l'action, et on a vu des films de Michael Mann qui étaient mieux, comme Collateral par exemple, avec Tom Cruise qui était vraiment... ou Hit, voilà, Hit, c'est quand même autre chose que ce film-là. Quoi. Si je devais conseiller un film de Michael Mann, je ne conseillerais pas celui-là en premier.
Par contre, Jérôme, je me fais une réflexion.
Aïe.
Je demande d'ailleurs à avoir un jingle, les réflexions de Juju.
Écoute, ça on va. Je vais charger un bureau d'études de faire ça, oui.
Bon, voici ma réflexion. Ce film-là, Dragon Rouge, il est extrêmement complexe au niveau du scénario. Mmh. Ça nécessiterait tout simplement d'être super simple. T'as le méchant qui est vachement charismatique, il tue des gens. T'as le flic il le chope, fin de l'histoire. À la fin, il le tue, crac, boum, on n'en parle plus. Tout le monde a passé une bonne soirée, merci, rideau, crac.
C'est-à-dire un court-métrage de 5 minutes, quoi.
Non, ce film-là, il dure 2 heures et franchement, c'est hyper tortueux. Il y a trop de choses, je trouve. Voilà, Hannibal Lecter, il est dans l'autre film, t'incrustes pas dans ce film. Tu vois ce que je veux dire ?
Tu voudrais qu'il n'y ait pas du tout Hannibal Lecter, quoi, en quelque sorte.
Voilà, tout à fait. Je trouve qu'un méchant, ça suffit. Un méchant par film.
Mais la complexité, Seven, voilà, il y a d'autres films avec un tueur en série qui seraient bien plus palpitants que celui-là. Tu prends Seven, il écrase le Dragon Rouge, mais en trois secondes. Il faut bien qu'il trouve de nouvelles choses à mettre, la complexité. Peut-être là, c'était pas très bien amené, la structure
du film.
Non,
mais ce que je veux te dire, c'est que des fois, les meilleures histoires sont les
plus courtes, oui.
Voilà. Les plus simples, en tout cas.
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui...
Quelque chose de très simple, ça peut être très bien, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h.
Les films sont en général... Mais ça, moi, je pense que c'était nouveau, mais en fait, de tout temps. Hein, parce qu'il y a très peu de films qui durent qu'une heure trente. Hein, ou sinon, peut-être des comédies françaises des années 80 ou des choses comme ça. Mais en fait, quand on regarde, par exemple, Le Sixième Sens, tu vois, je ne sais plus combien je t'ai dit.
L'as pas dit la durée au début.
En fait, c'est parce qu'il n'y a que 5 minutes de différence entre les deux.
Mais les deux durent 2 heures.
Ouais, les deux durent 2 heures environ. Voilà, je ne retrouve pas dans mes notes. Il est long aussi, quoi, si tu veux. De tout temps, les films, en fait, ils durent 2 heures. Ce qui est, à mon avis, trop long.
Tout à fait.
Il y a plein de choses qui pourraient. Mais ça permet aussi, des fois, un peu d'expliquer la complexité. Quand le film te plaît, les 2 heures, ça passe vite. Quand le film te semble un peu long et où il est un peu ennuyeux, ça peut durer une éternité, quoi, si tu veux. Voilà, il y a des grands films.
Non, mais La Fellini durait 1h20, j'en voyais pas la fin. Moi
aussi, oui. C'est vraiment, il faut avoir quelque chose à dire et le faire et le dire d'une façon un peu intéressante pour que le public ne voit pas le temps passer.
Tout à fait.
Voilà. Donc, on vous rappelle que si vous avez aimé ce podcast qui était une sorte de combat fratricide entre moi et Julie.
Fratricide, maricide.
Ah, maricide ? Ah,
ben oui, c'est vrai. Fratricide, c'est entre frères et sœurs. Pauvre con.
Bref, on vous rappelle que si vous aimez ce podcast, vous pouvez le retrouver sur iTunes, sur le site PodCloud ou sur notre mini-site comparsine.lepodcast.fr. Si jamais vous étiez tombé dessus, vous entendez ça dans un supermarché, et tout d'un coup vous dites « Ah, j'aimerais bien écouter la suite », eh bien, vous pouvez le télécharger sur comparsine.lepodcast.fr. Et il y a un autre podcast qui est aussi disponible, Pourquoi Forest, sur le pourquoi du commun dans la course à pied. Et on va essayer d'enregistrer bientôt un nouvel épisode. Il y a d'autres projets qui sont dans la boîte, mais on en parlera un peu plus tard. Et vous pouvez aussi nous contacter ou voir l'actualité sur notre Facebook. Mais là, par contre, c'est Queen Production. Voilà, sur Queen Production, vous trouverez tous nos podcasts et toute notre actualité.
Alors, je me permets de...
Mais permets-toi.
Corriger, Quint et pas Queen, donc Q-U-I-N-T, Quint.
Production.
Voilà.
Voilà. J'avais mal à titre.
On aurait dit que tu disais Queen comme la reine.
D'accord. Dis-moi, je marque pas des points aujourd'hui.
Mais si.
Tu m'es rentré dans le lard tout le podcast.
Mais écoute, Jérôme, nos auditeurs, c'est ce qu'ils demandent.
Ah, tu sais, il y a des statistiques, etc.
Oui,
là.
Notre seul auditeur a dit qu'il aime quand on se frite. Il écoute ce podcast, que pour ça.
Voilà. Bon. Mais par contre, si nos enfants l'écoutent, ils vont se dire, ils vont se séparer, c'est pas possible.
Mais non, ils sont habitués.
Est-ce que je peux envoyer le générique de fin? Est-ce que ce podcast de tortura est enfin fini, Julie?
Oui.
D'accord, allez.
C'est bien chamaillé.
Oh, ça oui.
Présent. Ciné.
Il envoie du bois ce générique.
C'est de bon podcast quand même, hein. Tu veux bien rentrer dans le lard, t'as
oui,
pris
mais
plus d'espace.
Franchement, t'aurais dû garder l'enregistrement pendant ce qu'on se gardait dans le lard, tu lui as coupé le meilleur moment.
On est à 38 minutes.
Ah ben parfait, on a respecté le timing.
Voilà, mais si j'avais enregistré, on serait beaucoup plus.
Oui, mais c'était le meilleur moment, je pense. Maintenant, on peut continuer à se friter encore. Hein.
Allez, on va aller manger des crêpes.
Tu vas les faire?
Allez, peut-être.